Bienvenue au 14e épisode de Littéramour. Je suis Sigrid Brinkmann et je vous invite à découvrir le jeune écrivain Jat Hilal. Je l'ai rencontré à Paris en fin d'après-midi dans un café où on ne pouvait pas échapper au bruit de la rue. Jat Hilal enseigne l'anglais au lycée. Il avait terminé ses cours et était de très bonne humeur. Son premier roman, Des ailes au loin, a déjà remporté 3 prix littéraires. La traduction en allemand venait d'apparaître et Jat Hilal avait, quelques mois auparavant, soutenu une thèse de doctorat à la Sorbonne. Pendant 5 ans, il avait mené une enquête philosophique et littéraire sur la notion de la sympathie au XVIIIe siècle. Je lui ai demandé de résumer en quelques mots le propos de sa recherche.
Est-ce que vous avez 2 heures ? Alors, en quelques mots, bon, c'est toujours un peu délicat, mais mon interprétation, qui coexiste parmi beaucoup d'interprétations, consiste à considérer que la sympathie et l'empathie sont des termes qui ont recoupé des réalités très semblables et qu'il est très difficile, historiquement et sémantiquement, de les distinguer. Voilà, c'est mon interprétation. Ces interprétations, pour faire vite, étant soit biologiques, donc entrer immédiatement en empathie avec quelqu'un, soit intellectuelles, sentimentalement, par l'imagination, soit les deux. Donc c'est globalement les différentes conceptions des termes que j'ai abordés.
Jat Hilal a 34 ans. Il descend d'une famille d'origine libano-palestinienne. Les membres vivent dispersés dans plusieurs pays, notamment en Jordanie, au Liban, en Suisse et en France. Inspiré de son histoire familiale, Jat Hilal a écrit un roman à 4 voix. Ce sont des voix féminines.
Je crois que Des ailes au loin est mon premier roman à bien des égards. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le premier texte que j'ai écrit, que j'ai publié, c'est aussi également le premier roman avec lequel j'ai commencé à me dire que il n'était pas toujours nécessaire d'inventer, que parfois la vie elle-même était une histoire et qu'on pouvait raconter des choses qu'on avait vécues ou que les gens qui nous entouraient ont vécu. Et bien souvent, en fait, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller très très loin dans l'imagination parce que il suffit d'écouter, en fait, je crois. En tout cas, c'est ce que moi, j'aime beaucoup faire. Et c'est vrai que depuis Des ailes au loin, je m'autorise beaucoup plus à ça. C'est-à-dire à écouter des choses qui ont vraiment existé, qui ensuite m'ont échappé un petit peu, mais je trouve que ça a inauguré cette manière-là d'écrire. C'est aussi le premier roman, au sens d'une écriture que j'ai commencé à systématiser. C'est-à-dire qu'à partir de Des ailes au loin, l'écriture a commencé à faire partie de ma vie. Elle habite mon quotidien. Je me lève pour écrire, je dédie un certain temps de ma vie à l'écriture. Et je crois aussi, pour terminer, que sur un plan plus personnel, Des ailes au loin m'a permis de trouver une place aussi dans ma famille. Je suis un homme, je suis né en France. Donc toutes ces choses que ma famille a vécues, je ne les ai pas vécues, je ne pourrais jamais les vivre ni les connaître. Donc je me suis toujours senti un peu à distance, en fait, de cette famille-là. J'ai eu toujours beaucoup de mal de trouver ma place. Et je crois qu'à partir de Des ailes au loin, j'ai compris que ma place n'était pas celle d'un acteur de cette famille, mais plutôt d'un raconteur, voilà, quelqu'un qui raconte.
Je voulais savoir comment il avait trouvé la matière de son premier roman.
Je crois que je m'explique rarement la naissance d'un besoin d'écriture sur un plan littéraire. Sur un plan scientifique, j'avais une raison évidente liée au sujet. Sur le plan d'écriture, pas du tout. Des ailes au loin, quand j'ai commencé à l'écrire, pour tout vous dire, je ne pensais pas du tout écrire un roman. J'étais à un repas de famille avec ma grand-mère, ma mère, ma nièce et ma sœur, et ma grand-mère parlait de la Palestine. Elle a dit « Je suis partie de la Palestine, mais je suis restée. » Et toutes les autres personnes de ma famille ont hoché la tête. Elles avaient compris ce qu'elle voulait dire. Moi, je n'ai pas compris. Et j'ai demandé à ma grand-mère de me raconter sa vie. Et puis j'ai fait ça avec ma mère, ma sœur et ma nièce. Et c'est de là que le projet du texte est né. Et au départ, c'était vraiment juste pour comprendre l'histoire de ma famille. Je n'avais pas du tout prétention à écrire un roman.
C'est-à-dire que vous avez passé des heures, des jours, des semaines à reprendre le fil et à comprendre ce qui les émeut, ce qu'ils ont vécu et ce qui les décide de faire leur vie.
Oui, absolument. Alors, si vous voulez, il y a eu plusieurs étapes d'écriture. Je pense que la première a consisté à recueillir vraiment leur histoire l'une après l'autre. Et là, j'ai appris beaucoup de choses et c'était un travail passionnant parce que, et très drôle d'ailleurs, parce que entre nous, par exemple, ma grand-mère, elle a un sens de la temporalité très particulier. Elle faisait des bonds dans le temps de 20 ans parfois et moi, je me retrouvais à écrire en me disant mais pourquoi est-ce que tout à coup, elle a 4 enfants? Enfin, c'était assez intéressant. Mais je crois que la deuxième étape, c'est ce qui a peut-être forgé un peu mieux le projet littéraire. Je me suis rendu compte que le même événement n'était pas raconté et ressenti de la même façon par chaque personne. Et c'est là que je me suis dit, essayons de faire une chronologie et d'alterner les voix pour voir comment effectivement, les sensibilités influent un peu sur le ressenti de l'histoire, en fait. Parce que ce que l'histoire a été passe par le ressenti de chaque personne.
Il lui a été facile, dit Jatilal, d'écrire d'un point de vue exclusivement féminin. Il fait constamment alterner les voix des quatre femmes. Il décrit comment elles ont déménagé de Haïfa à Beyrouth et à Baalbek, ou du Proche-Orient vers la Suisse ou vers la France. Dans son roman « Des ailes au loin », l'écrivain évoque des histoires d'expulsion, de réussite professionnelle et de radicalisation politique. Les humiliations transgénérationnelles sont une constante et évoquées avec peu de mots. La jeune Naïma, par exemple, a l'habitude de sourire de manière figée, chaque fois qu'elle a peur et qu'elle est stressée.
Avec ce texte-là, j'ai aussi voulu ne pas raconter la douleur de façon amplifiée. J'ai trouvé que c'était trahir aussi un petit peu la justesse avec laquelle ces femmes ont raconté leur vie, que de rajouter beaucoup de pathos, de tristesse, etc. dans l'écriture. Les situations de vie, en fait, lorsqu'elles sont douloureuses, n'ont besoin que d'être racontées. Et l'émotion, elle prend un relais par les faits et pas nécessairement par le style. Et je crois que ma grand-mère, elle est caractérisée un petit peu par ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'exprime pas nécessairement la tristesse, en tout cas physiquement. C'est quelqu'un qui a vécu la tristesse, mais qui n'exprime pas comme ça. Et je trouve qu'il me semblait peu louable que de trahir cet aspect-là d'elle. Et je crois que le sourire en fait partie, en quelque sorte.
La scène suivante, racontée par Naïma, née en 1930, nous frappe par sa violence. L'humiliation que la mère de Naïma a subie est terrible. Le maître de la maison pouvait décider de la vie ou de la mort d'un membre de la famille. Ma mère a cuisiné une grande marmite de choux avec beaucoup d'épices et de piments. Je l'ai observée, assise sur un tabouret peu solide, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer avec fracas. Mon père revenait du travail. Il a fait valdinguer ses chaussures dans le salon. Ma mère m'a regardée, droit dans les yeux cette fois-ci. Je me souviens de ce regard. Un courage forcé et une angoisse qui semble vouloir l'étouffer. C'était comme si elle voulait me rassurer sur quelque chose à venir. Prophétesse incertaine, elle me livrait un message, une émotion réconfortante. J'en ai compris, il y a peu de temps, le but. Elle me remplissait. Elle me remplissait d'espoir pour ma survie. La suite, elle savait, allait me changer, tuer une partie de moi. L'avenir allait me pomper tout cet espoir et le jeter au diable.
Mon père est entré dans la cuisine. Il a hurlé « du chou ?» Et face à mon air stupide, il a soulevé la casserole brûlante et l'a renversée entièrement sur ma mère. Mon père était dur avec tout le monde.
Je sentais dans ce moment-là qu'il y avait parfois, et c'est assez compliqué pour quelqu'un qui écrit, d'admettre que parfois il n'y a pas de mots. Et c'est dur de retranscrire quelque chose qui finalement n'est pas nommé. Cet espoir que la mère donne à sa fille pour qu'elle puisse tenir le coup face à la scène d'horreur qu'elle s'apprête à vivre, c'est quelque chose qui n'est pas passé par des mots, c'est passé par un regard. Et c'est vrai que le retranscrire par les textes, c'est douloureux et difficile. Je pense que une des choses que j'ai comprises au moment où j'ai entendu cette histoire-là, c'est que la domination parfois n'est pas nommée. Qu'il suffit parfois d'un air, d'un regard pour qu'on comprenne les rapports de force qui peuvent exister dans une famille notamment.
Qu'est-ce qui lie les femmes de quatre générations? Elles sont très liées. Quels sont les bons?
Ce qui relierait ces femmes, je pense que ce sont deux choses. La première, c'est qu'elles partagent une maternité difficile. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont toutes été tirées de l'enfance d'une manière qu'elles ont jugée douloureuse. Et donc, ça les a conduites, malheureusement, à ne pas savoir exactement comment se situer en tant que mère. La deuxième chose, je crois que c'est plus clairement l'exil. Ce sont des femmes qui ont parcouru en quelque sorte la même route à chaque fois, c'est-à-dire du Moyen-Orient jusqu'à l'Europe, et qui ont donc vécu à chaque fois le choc culturel et puis le désenchantement, promesse d'un horizon qui ne s'est pas forcément réalisé.
Vous-même, vous vous êtes déplacé pas mal non plus. Vous êtes né à Genève, vous avez travaillé en Écosse. Vous étiez à Lyon, maintenant vous êtes à Paris. C'est dans la famille.
Ah oui, absolument. Je pense que j'ai hérité de la difficulté de s'ancrer, effectivement. Et j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise dans les capitales aussi, ou dans les grandes villes. Je crois que c'est aussi lié au fait que, je ne sais pas comment dire ça, mais on se sent peut-être moins seul à être de partout, dans les grandes villes. Elles m'ont donné ça, effectivement.
Jatilal dit qu'il n'a pas voulu juger les hommes despotiques de la famille. Ici et là, il laisse entendre qu'eux aussi ont subi de graves contraintes. Par exemple, lorsque leurs parents les obligeaient à épouser des filles encore enfants pour la dot et qu'ils ne pouvaient tout simplement pas ressentir l'amour pour elles. Ces hommes non libres vont échouer en tant que pères. Les enfants les perçoivent comme des snipers, toujours à l'affût et prête à faire mal.
Mon intention n'était absolument pas de faire avec ce livre un procès aux hommes, mais seulement d'expliquer comment dans certaines sociologies, dans certains contextes sociaux, certains êtres, qu'ils soient femmes ou hommes, arrivent à prendre des décisions et à sentir des choses qui sont problématiques pour eux et qui engendrent vraiment des actes violents ou terribles. Et un des personnages que j'ai beaucoup aimé travailler, c'est celui de Jaïd, qui en fait est donc le mari de Naïma, et quelqu'un qui a beaucoup beaucoup souffert. Et donc évidemment c'est quelqu'un de très violent, qui a un rapport extrêmement brutal avec sa fille, mais Jaïd c'est quand même quelqu'un qui était amoureux d'une artiste, qui était beaucoup plus âgée que lui, mais l'union a été complètement désapprouvée par les parents, parce que la famille de cette femme-là n'avait pas assez d'argent. Et ce sont ses parents qui l'ont enfermé chez lui, ils l'ont empêché de revoir cette femme et l'ont obligé à épouser Naïma, qui avait 11 ans à cette époque-là, donc une petite fille, parce que sa famille avait de l'argent. Donc ce n'est certainement pas pour excuser, mais c'est un peu pour contextualiser comment avoir une vie de couple sereine et apaisée lorsqu'on a vécu ces choses-là.
Les personnages féminins du roman sont déracinés, mais pas faibles. Elles savent s'en sortir, où que ce soit. Elles supportent également des espoirs dessus,
notamment celui de pouvoir mener une vie autodéterminée en Europe. On ne se plaint pas dans des ailes au loin, ni sur les souffrances subies, ni sur les conflits politiques insolubles au Proche-Orient, ni sur le statut précaire des Palestiniens, peu aimés au Liban. La grand-mère de Jatilal, née à Haïfa et vivant en Jordanie, est le personnage central du livre. Comment a-t-elle réagi à sa publication?
Oui, alors, c'est assez comique parce que elles ont réagi exactement comme les personnages en question. C'est-à-dire que ma grand-mère a réagi comme une grand-mère. Je me souviens que j'étais allé la voir, elle habitait à ce moment-là en Jordanie. Et je passais à la télévision sur France 24 à ce moment-là. Et je lui ai dit, t'as vu, c'est moi. Et je lui ai dit, c'est par rapport à l'histoire que tu m'as racontée. Parce que ma grand-mère sait pas lire en fait. Et donc je lui ai dit, tu sais que tu te souviens quand on m'en a parlé, etc. Et puis elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et j'ai commencé à lui raconter l'histoire. Et je sentais que son attention se dispersait un peu dans l'air. Et comme une grand-mère, elle m'a dit à la fin, il y a eu un silence. Et puis elle m'a dit, non mais bon, bref, tant que t'es heureux. Donc vous voyez, totalement... Exactement, ma mère a réagi de manière, par exemple, extrêmement politique. Elle m'a envoyé un document Word de 2 pages, écrit en rouge, en capitale, souligné en me disant « ça s'est pas passé en 47, ça s'est passé en 57, on n'était pas 5, on était 7, comment peux-tu, fils indigne ?» Enfin bref, très politique. Donc vraiment, chaque personne a eu un regard qui correspondait à ce qu'elle était.
Les fragments biographiques, parfois condensés en images poétiques, témoignent tous d'une grande résilience. À la fin, l'auteur fait observer à la petite fille de Naïma comment quelques oiseaux s'élèvent dans le ciel au lever du soleil sur le lac Léman. Sa fille est à Beyrouth, à l'école, où elle entendait exploser une bombe.
Je crois que c'est une scène que j'ai tout de suite sentie finale, lorsque ma nièce m'a raconté qu'elle avait vu des oiseaux s'envoler quand Rafik Hariri a été tué. J'ai tout de suite senti que ça aurait sa place à la fin du texte. La raison à ça, c'est que je crois que c'est effectivement une image d'espoir, et c'est aussi un renvoi à un élément que partagent toutes ces femmes également, qui est celui que le bonheur est toujours perçu comme un horizon lointain. Et c'est pas quelque chose qui à un moment ou à un autre a été saisi en fait. C'est toujours une promesse. C'est évidemment le cas dans l'exil aussi. Et je crois que c'est quelque chose qui caractérise plus spécifiquement la conception d'un exil pour un individu aussi. C'est-à-dire que c'est la promesse d'arriver dans un lieu qui guide le chemin. Et une fois que le lieu est arrivé, autre chose commence. Donc le bonheur est vraiment dans le désir en fait, si vous voulez, de ces femmes.
Le roman « Des ailes au loin » est paru aux éditions Elizade à Tunis. Cette maison, fondée en 2005, publie la littérature de langue française. Malheureusement, le nombre de livres traduits du français en arabe diminue. Qu'en sait Jatilal de la réception de son livre par le public libanais?
J'ai eu deux réactions. J'ai eu la réaction de gens du Liban, mais qui vivent ici, qui étaient très enthousiastes, etc. Je pense que certains se sont reconnus. Et j'ai une réaction qui est un peu plus singulière, qui est celle de gens au Liban, notamment dans mon village natal, qui est celui d'Arsoun, dans les montagnes au-dessus de Beyrouth, un tout petit village, et où les gens m'ont dit leur satisfaction, mais de façon plus murmurée. plus secrètes. Je crois qu'on ne peut pas encore dire les choses qui ont été dites dans ce texte-là de façon aussi ouverte dans certains endroits. J'espère qu'un jour on y arrivera.
Et qu'est-ce que le Liban représente pour lui qui n'y a jamais vécu pour une période plus longue?
Je crois que le Liban, ce sont les oiseaux pour moi. C'est un horizon, c'est un endroit qui m'échappe toujours et auquel j'ai toujours envie d'aller. Vous savez, c'est comme quand on est un enfant et qu'on voit des oiseaux, on tend un peu la main. On tend la main pour les atteindre et on les atteint jamais, mais on tend toujours la main. Et je crois que le Liban, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'y aller, toujours envie d'y retourner, et c'est toujours quelque chose que je n'attends pas. Là, par exemple, j'y suis allé il y a 2 semaines, et jamais il m'a échappé autant que dans ce contexte dans lequel il est actuellement. Avec l'économie en lambeaux, c'est un pays qui se liquéfie, en fait, qui se délite. Et c'est difficile de saisir cette âme que le Liban a et dont j'ai besoin et que je cherche à chaque fois que j'y retourne. Maintenant, plus que jamais.
En mars, l'écrivaine franco-marocaine Leila Slimani était de passage à Berlin. Je lui ai posé quelques questions au sujet de son récit « Le parfum des fleurs la nuit ». La traduction allemande venait de paraître et je lui ai demandé de nous dire quel livre elle a apprécié lire tout récemment.
Alors récemment, j'ai lu le livre de mon ami Abdellah Taïa. Et ce livre s'appelle « Vivre à ta lumière », il est publié au Seuil. Et c'est un livre dans lequel il rend hommage à sa mère, qui a été très très importante dans sa vie, dans son parcours. C'est un très beau livre, à la fois tendre et assez cruel, et très très bien écrit. Abdellah Taïa est un auteur marocain qui publie en France depuis de nombreuses années, qui publie aussi dans plusieurs pays du monde, et qui est le premier auteur marocain à avoir affirmé ouvertement son homosexualité. Et il écrit beaucoup sur ce thème, l'homosexualité, le thème du corps, sur la pauvreté, sur les transfuges de classe.
Abdellah Taïa, qui vit en France depuis 1999, écrit aussi pour les quotidiens Le Monde et Le Guardian. Dans le prochain épisode de Littéramour, Leila Slimani parlera de la nécessité de l'enfermement pour l'écriture. Et je visiterai Patrick Suel dans sa librairie Zadig. Bien à vous et à bientôt.